Nous attendons aujourd'hui notre premier avion depuis la libération pour les Pays-Bas en mai 45. Ça sera la première fois que nous reprenons notre service. Le service sera assuré, par, comme je vous ai dit, par des C3, 21 places, avec une moyenne de 300 km à l'heure. Le parcours sera effectué en 1h40 à peu près.
Nous allons mettre à l'étude et en construction des prototypes français. Je donne l'assurance que dorénavant, ces prototypes seront choisis uniquement sur la base de l'intérêt national et de la perfection technique. Aucune pression des intérêts privés ne sera tolérée. Des sanctions extrêmement sévères frapperont ceux qui ne comprendraient pas cet avertissement.
Le service sera exécuté tous les jours, sauf le dimanche.
Prenons toutes les professions qu'on peut trouver. Évidemment, il y a des exceptions, par exemple les ouvriers de transport et les ouvriers dans les bois ou de professions agricoles. Ont les mains déjà trop dures pour qu'ils puissent faire les travaux de précision. Mais nous avons trouvé des conditions, par exemple des ouvriers, des coiffeurs ou des boulangers, et avec lesquels nous avons obtenu des résultats excellents.
J'ai rencontré le grand savant Joliot-Curie et nous avons parlé d'aviation. D'un commun accord, nous avons reconnu la nécessité de créer une commission scientifique de l'aéronautique. Cette commission fonctionnera dès la semaine prochaine. Désormais, ce seront des savants, d'une part, des techniciens et des ouvriers, d'autre part, qui influeront sur les destinées de nos industries et non plus des marchands.
Nous transportons du fret, nous transportons le courrier, nous transportons les bagages des passagers, bien sûr, et nous espérons avoir beaucoup de fret qui est très pressé, bien sûr, de fret corruptible, des fleurs en provenance de la Côte d'Azur pour la Scandinavie, parce que, si je ne vous ai pas encore dit, mais la ligne Paris-Amsterdam donne correspondance à Amsterdam sur Copenhague-Malmö.
Parmi ces savants, il y en aura de toutes les spécialités. C'est qu'en effet, dans la construction d'un avion, interviennent un nombre considérable de techniques faisant elles-mêmes appel à tous les grands domaines de la science physique, chimie, physiologie et même médecin. La commission scientifique de l'aéronautique ne limitera pas son activité à la construction proprement dite. Elle portera ses investigations dans les branches annexes. Elle aura par exemple à mettre au point le grave problème des carburants d'aviation.
Les ouvriers qui viennent à nous, en général, doivent avoir de 18 à 48 ans. En dessous de cet âge-là, pour eux, il ne serait pas intéressant de venir à nous parce que le salaire que nous pourrions leur indiquer, leur donner, ne leur donnerait pas des moyens suffisants d'existence large. Ainsi, un ouvrier qui a 18 ans, de 18 à 20 ans, touche ici, s'il n'est pas spécialisé, 10 francs de l'heure. S'il est spécialisé, 11 francs 40. Par contre, ceux qui sont âgés de plus de 20 ans touchent 12 francs 40 s'ils ne sont pas spécialisés et 14 francs s'ils sont spécialisés, c'est-à-dire si ce sont des ajusteurs d'aviation ou des chaudronniers tauliers.
Nous entendons le Lionel de Marmier qui, malgré sa taille très imposante, paraît très léger dans le ciel.
L'aviation ne doit plus être considérée comme un article de luxe à la seule disposition d'une caste. Elle est une nécessité nationale et doit à ce titre s'appuyer sur toutes les couches de la nation, faire appel à toutes les bonnes volontés, répondre à toutes les vocations.
C'est avec une joie, une émotion profonde, je me retrouve parmi mes camarades de combat, mes camarades de toujours, mes camarades, vous, les métallos de la région parisienne. Satisfaction que j'éprouve de vous voir ici, tous unis par une volonté commune, celle de faire place nette dans notre grande et belle maison, la France.
Pour aller de Paris à Londres, il en coûtera 7 livres sterling, soit, au cours du change, 3 360 francs. A titre de comparaison, le même parcours, effectué par chemin de fer et bateau, coûte 2 575 francs en première classe. De Paris à Bruxelles, 1 500 francs français en avion, 876 francs par le rail. De Paris à Genève, 2900 francs français en avion, 1820 francs par le rail.
Le 840 est un avion que j'ai conçu maintenant il y a déjà 3 années, puisqu'il était au salon dernier déjà, en commencement d'expérimentation. Et cet avion a été conçu pour à la fois le transport des passagers, et maintenant sa version normale dans ce but est de transporter 24 passagers, et également d'avoir la possibilité de faire avion exécutif, c'est-à-dire, suivant la tradition plus française, avion de commandement, en quelque sorte.
Tous ces chiffres n'entreront en vigueur qu'après homologation par les autorités officielles compétentes dans les divers pays. D'une façon générale, ces prix sont en baisse légère par rapport à ceux qui étaient pratiqués jusqu'ici. Mais pour nous, Français, ils sont un peu supérieurs, ceci à cause de la dévaluation.
Et là, nous avons, pour cela faire, augmenté la possibilité d'emport de combustible, puisque, pour tous les avions d'ailleurs, puisque le combustible est contenu entièrement dans la voilure, et que nous avons une quantité de combustible d'environ 3200 litres, qui donne un rayon d'action d'ailleurs de 3200 km à peu près, puisqu'on consomme à peu près 1 litre au kilomètre.
Deux progrès intéressants. Chaque passager sur les lignes d'Europe pourra désormais emporter en franchise 20 kilos de bagages au lieu de 15. Et les enfants, qui payaient jusqu'ici le prix fort au-delà de 7 ans, bénéficieront du tarif réduit jusqu'à l'âge de 12 ans.
Le 28 février, tout le monde s'en souvient, le pilote d'essai Michel Chalard sur le Gerfaut 2 battait le record du monde des 3000 mètres départ arrêté, record qui appartenait précédemment à un appareil américain. Quelques jours auparavant, d'ailleurs, le pilote d'essai André Turca avait battu toute une série de records sur ce même appareil.
Le statoréacteur sur lequel le Duc travaille déjà d'avant la guerre, 1938, le premier le Duc, est une des formules de l'avenir les plus importantes. Ce qui a considérablement gêné le Duc, c'est que jusqu'à ces derniers mois, il était obligé de faire voler sa tuyère en décollant d'un avion en vol, un bloc. On peut annoncer au public que le prochain Le Duc, le 022, décollera d'un terrain et n'aura plus besoin d'être porté en l'air.
Je voudrais pour un instant essayer de faire le point. Et autant pour moi que pour nos auditeurs, relire les tablettes des records dont vous venez de parler. Je crois qu'on en comprendra mieux ainsi la valeur. Le 16 février, au-dessus du terrain d'Istres, le Gerfaut 2, au cours d'un essai de vitesse ascensionnelle, c'est-à-dire d'un vol se rapprochant de la verticale, a battu plusieurs records du monde. Il est monté à 6000 mètres en 1 minute 17 secondes, alors que le temps du record précédent, établi par le Gloster Meteor à réacteur Saphir, était de 1 minute 50 secondes. À 9000 mètres en 1 minute 34 secondes contre 2 minutes 25 secondes. Et à 12000 mètres en 2 minutes 18 secondes contre 3 minutes 7 secondes. En outre, il a établi le record de 15000 mètres, record dont les temps, définis d'après les radars, ne sont pas encore complètement dépouillés.
Cela est énorme, car les problèmes considérables que la maison Le Duc a eu à résoudre dans ces dernières années sont à l'origine, par la qualité des solutions apportées, à l'origine de progrès considérables dans l'industrie aéronautique non seulement française mais du monde entier.
Le Gerfaut 2 est un appareil dérivé pour à des fins opérationnelles du Gerfaut 1. Il lui ressemble beaucoup et les deux avions peuvent se présenter de la façon suivante. Monoplan entièrement métallique à aile delta, c'est la caractéristique principale. Monoréacteur. Le Gerfaut 2 est équipé d'un réacteur à post-combustion ATAR 101G d'une poussée de l'ordre de 4500 kg.
Le Duc a été un précurseur et il le reste. Et il doit en être remercié de ses efforts.
Fort heureusement, la performance du Gerfaut ne représente pas un fait unique en ce qui concerne l'aéronautique française. Il est d'autres appareils qui ont des performances certainement sensiblement équivalentes dans le domaine de la montée. Quand on ne parle pas de record, et dans le domaine des vitesses pures, certainement supérieures. Donc, on peut dire qu'actuellement, l'aéronautique française, du point de vue mondiale ne se place pas si mal que ça.
Au-delà de la vitesse du son, la résistance de l'air augmente dans des proportions énormes, et en tout cas beaucoup plus, qu'en dessous. Par conséquent, si on franchit cette vitesse, on se trouve devant un problème d'augmentation de puissance énorme qui réagit de façon désastreuse sur l'économie d'ensemble de la machine.
Il faut bien voir que l'aviation connaît une mue. Il y a à peine 5 ans, l'aviation française, militaire, n'avait pas d'avion à réaction dans ses unités. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avenir d'une triple formule, le réacteur, le statoréacteur et la fusée. Qu'avant la guerre, nos moteurs, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils étaient chers, et ils étaient chers parce qu'on en fabriquait peu, et qu'ils exigeaient d'immenses outillages pour être mis au point, n'avaient pas une excellente réputation.
Mais par ailleurs, si on considère le rendement du moteur, il se trouve que comme ce moteur est un moteur à réaction, son rendement est d'autant plus grand que la vitesse est grande. Et si bien qu'on peut comprendre par ce raisonnement assez simple que si on franchit la vitesse du son, non pas juste un petit peu, mais si on va nettement au-delà, on peut retrouver, grâce à l'augmentation du rendement du moteur, des conditions acceptables à un nombre de Mach qui est, disons, de l'ordre de 1,8. À partir de 1,8, on retrouve donc des conditions économiquement acceptables.
Et en réalité, pour revenir aux choses un peu plus sérieuses, actuellement, l'aviation est dans une passe difficile, en crise, comme le reste du monde, crise de l'énergie et crise également, disons, de notre vie moderne.
Pourquoi avons-nous choisi 2,2? Eh bien, c'était le nombre qui, d'une part, se trouvait dans la plage de rendement acceptable dont je viens de parler, et d'autre part, était assez bas pour permettre de conserver un matériau traditionnel, ou du moins un matériau proche des matériaux traditionnels, qui sont des matériaux en alliage léger pour les avions, et d'autre part, qui évitait les, ou qui limitait plus exactement les difficultés techniques à un degré raisonnable.
Très brièvement, on peut se déplacer, si vous voulez, ces bons sentiments de plusieurs façons. Et dans l'avenir, on le fera peut-être en regardant le visophone ou la télévision, en appelant au téléphone quelqu'un à Tokyo, on le verra à côté de soi sur le petit écran. Mais il y en a d'autres qui ont choisi le transport aérien, justement, pour se rendre auprès de leurs amis ou des hommes d'affaires avec qui ils doivent traiter. Et le développement de ces dernières années du transport aérien se faisait de la plus belle façon quand nous est tombée dessus cette crise du pétrole et le renchérissement du prix du pétrole, du prix du carburant, a un petit peu bouleversé les cartes.
Mais ces difficultés sont dues à l'échauffement de l'appareil au-delà d'une certaine vitesse. Il se trouve qu'au-delà d'une certaine vitesse, le frottement de l'air sur les parois de l'avion produit un échauffement qu'on a souvent appelé d'ailleurs mur de la chaleur, par une expression d'ailleurs impropre parce qu'il ne s'agit pas d'un mur, mais il s'agit d'un phénomène continu. Plus on va vite, plus l'avion est chaud.
Les passagers eux-mêmes se sont désintéressés quelque peu des avions et les compagnies aériennes maintenant se grattent un peu la tête pour savoir comment elles vont remplir leurs appareils, payer leur personnel. Quant aux constructeurs, ils se demandent évidemment où ils vont placer leurs avions.
Aux vitesses que nous avons choisies pour Concorde, c'est-à-dire aux environs de Mach 2 ou 2,2, cet échauffement est relativement modéré et ne conduit pas à une température de la peau de l'avion plus grande qu'une centaine de degrés, et un peu plus sur certains points.
Bien, je pense que la crise du transport aérien était inéluctable. Je ne nie pas du tout le rôle de détonateur et d'amplificateur que l'affaire des carburants a joué. Mais il est certain que, comme vous le rappeliez, depuis un certain nombre d'années, alors que la courbe d'expansion du trafic avait tendance à s'aplatir et n'atteignait plus les chiffres records, tous les transporteurs mondiaux continuaient à s'équiper comme si les décennies d'euphorie allaient continuer longtemps. De sorte que peut-être eût-elle été moins importante, peut-être eût-elle été plus tardive, mais je pense que la minute de vérité serait apparue à un certain moment.
Les avions, c'est essentiellement de la chaudronnerie d'abord. C'est essentiellement de la transformation des matériaux, mais au sens des chaudronniers, et non pas dans le sens a priori des ajusteurs. Les ajusteurs interviennent plutôt en finition et en montage des opérations. Il faut d'abord transformer les matériaux en des pièces élémentaires qui seront ensuite assemblées par des ajusteurs. Et le métier, le premier métier, c'est le métier des transformations des métaux, donc les métiers de la chandonnerie.
L'affaire du pétrole, la récession relative du trafic ont été les détonateurs de la crise, les révélateurs. Mais ce sont un peu, dans cette affaire, les arbres qui cachent la forêt. Quelle est-elle, la forêt ? La forêt, c'est une distorsion fondamentale entre les besoins du transport aérien et les moyens qui lui sont proposés.
L'établissement de Nantes, traditionnellement, a toujours travaillé sur des ensembles de voilures et des ensembles de fuselages. Nous fabriquons la section, l'ensemble, qui est un caisson de voilure, un caisson central de voilure, qui sert à relier les deux demi-voilures fabriquées par nos amis britanniques et le fuselage. Donc c'est une section qui est très très chargée, puisqu'elle prend tous les efforts du fuselage et tous les efforts des voilures. Et la particularité, c'est que cet élément est le premier élément fabriqué dans l'avion, puisque nous avons des pièces vitales très importantes, donc à long cycle.
Cette distorsion, elle est d'abord quantitative. Globalement, si l'on met bout à bout la capacité de construction des constructeurs américains, des constructeurs européens et des constructeurs soviétiques, on s'aperçoit que toutes ces usines de fabrication d'avions sont susceptibles de mettre sur le marché entre 2 et 4 fois ce que représentent les besoins les plus optimistes du renouvellement et de l'expansion de l'ensemble des flottes aériennes commerciales, qu'il s'agisse des compagnies régulières ou des compagnies de vol à la demande que l'on appelle les compagnies charter.
Alors ce morceau, c'est le tronçon 21, c'est le 21e tronçon en partant de l'avant de l'avion. En anglais, on appelle ça le center wing box. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est la boîte centrale où viennent se jonctionner les voilures et tout le fuselage de l'avion. Ça mesure 5 mètres de large, 7 mètres de long. On met 55 000 litres de carburant dedans. Ça ressemble à une grosse boîte, mais en plus compliqué et en beaucoup plus cher.
C'est assez difficile à décrire, mais ça ressemble un petit peu à un appareil qui sortirait d'une bande dessinée ou d'un scénario de science-fiction. Ça se présente comme 4 ailes jointives qui sont disposées comme 2 triangles opposés autour d'un fuselage qui est composé de 2 poutres en bambou, une supérieure, une inférieure. Et entre ces 2 poutres en bambou, il y a 2 anneaux de 2,20 m de diamètre en lamellé collé de bambou.
Nous exportions, nos appareils étaient construits sous licence à l'étranger. On peut considérer que l'exportation est un critère certain de qualité de matériel. Donc nous réexportons maintenant depuis l'année dernière, vraiment à grande échelle. Nous pouvons donc considérer maintenant que notre matériel est a certainement une qualité prépondérante sur le marché international.
Et là, je travaille sur un gabarit, qui va permettre de confectionner les grands anneaux en bambou qui sont porteurs dans la structure et qui lui donnent justement une caractéristique d'avion du futur.
D'autant plus que, en réponse à, si vous voulez, une standardisation des programmes, à une réfection complète de notre industrie et de nos productions, nous avons su créer des techniques nouvelles qui souvent n'existaient pas jusqu'alors dans le monde, et ce sont surtout ces techniques qui intéressent l'étranger.
Tout avion est un mécano géant de tronçons à reconstituer et de milliers de pièces élémentaires découpées, usinées, assemblées. Un travail de couturier de haut vol.
Je pense qu'il y a d'abord pour tout le monde des problèmes de marché qui se posent. Il faut savoir qui on veut transporter, sur quelle distance. C'est le premier problème qui est posé au constructeur. Après ça, l'utilisateur cherche à savoir comment il va pouvoir franchir cette distance avec le volume de trafic qu'il a à transporter dans les conditions les plus économiques et les plus confortables. Donc si vous voulez, je crois que ce sont les premiers critères qui participent à la définition précédant la conception d'un avion.
Pour des raisons aérodynamiques, nous avons été amenés à nous éloigner de cette forme triangulaire pure qui serait la forme d'un delta, et nous avons adopté une forme plus comparable à une ogive, de telle manière que nous appelons souvent l'aile de Concorde une aile ogivale.
Le troisième niveau, où les compagnies régionales, effectivement, comme on les appelle, communément. Il s'agit de créer un réseau d'irrigation en matière de transport aérien. En effet, le transport aérien est devenu un moyen de communication indispensable au développement d'une économie moderne. Il a été d'abord très utile pour franchir les océans, les déserts, les grandes distances que l'on ne pouvait pas franchir par voie de surface. Et puis, avec le démarrage d'Air Inter, il a pénétré les grandes métropoles d'équilibre en France. Et très vite, il est apparu aux villes de moyenne et de petite importance qu'elles devaient se raccorder au réseau de transport aérien. Et sinon, elles ne participeraient pas aux jeux économiques français et a fortiori aux jeux économiques européens.
C'est celle qui a été reconnue comme la meilleure après de multiples essais aérodynamiques. C'est à cette conclusion de l'aile ogivale que sont arrivés aussi bien les bureaux d'études français que les bureaux d'études britanniques. Et d'ailleurs...
On a donc vu se développer toute une série de compagnies régionales en France qui rendent ce service de desservir des villes de moyenne et de petite importance. D'une part... Pour rattacher directement les populations et l'activité économique de ces villes à l'activité économique générale, mais d'autre part pour jouer un rôle de remplisseur, ce que les Américains appellent de feeder, c'est-à-dire qu'il s'agit de rabattre les passagers qui, depuis la province, viennent se raccorder au réseau international de transport aérien.
Si vous voulez, moi je connais absolument pas grand-chose aux avions, mais c'est un peu normal, parce qu'il paraît que c'est normal parce que je suis une fille.
Lorsqu'un appareil est beau, il soit un bon appareil. Et on a toujours constaté à travers le temps que lorsqu'une ligne était réussie, l'appareil était lui-même réussi. En matière de confort, nous nous efforçons d'apporter à nos passagers des conforts qui ne sont pas toujours évidents. La régularité, par exemple, c'est un confort, seulement ça n'apparaît pas. Et vous serez peut-être surpris d'apprendre que les compagnies arrivent à un très haut degré de ponctualité.
Quand on veut être aviateur, en général, on commence par là, par les maquettes. Je crois que, et beaucoup de gens ont commencé par les maquettes. Deux personnes m'ont frappé en faisant des maquettes. La première, c'est Von Braun, qui faisait les maquettes, évidemment, de fusées, des micro-maquettes en fusée qui volaient. Et ça aboutit quand même au programme Apollo et des gens qui se sont posés sur la Lune, c'est pas rien. Et l'autre, c'est Korolev. Alors Korolev, c'est le patron de la Cité des Étoiles. C'était le patron de la Cité des Étoiles qui a fait le programme Gagarine et Spoutnik. Et donc, ce sont deux personnes qui ont démarré par la maquette.
Un nouveau record vient de tomber. Un cap est franchi. L'homme, dans sa lutte pour la vitesse, vient d'approcher de très près, s'il ne les a même pas effectivement atteints, les 1000 km à l'heure. C'est sur un Gloster Meteor du type dit à réaction, moteur Rolls-Royce Derwent, que le pilote anglais Henrik Greenwood a atteint ce matin la vitesse moyenne de 963 km heure aux environs de Mansport.
Anthony, tu viens me mettre les écrous derrière et les serrer là. Tu mets les écrous et tu tiens derrière. Non, mais il va le faire
derrière. Il suffit d'aller voir sur le panneau. Nous on prend la suite du travail. Donc on va faire du montage panneau zone 2. On va mettre du carénage sous la voie. Alors donc il y a 2 fois 4h07, donc à 2 ça nous prend la moitié de la journée. Et de la fermeture de zone avant, donc un contrôle de l'avion avant de fermer la zone. Et puis après il n'y a plus qu'à amener les panneaux, les visser et tout, les serrer.
Le 840 a été conçu dans mon esprit pour être un avion très sûr. J'ai toujours eu dans ma ligne de conduite, de faire des avions qui ne dominaient pas l'homme. J'aime bien que les avions soient toujours bien conduits par l'homme. Et je suis particulièrement heureux de celui du 840, des derniers nés, parce qu'il est extrêmement réussi à ce point de vue. Nous avons fait au cours de cet hiver de nombreux voyages dans des conditions climatériques souvent très mauvaises, avec des plafonds bien en dessous de 100 mètres et des visibilité en dessous du kilomètre.
Un avion à réaction, c'est un avion qui avance en chassant derrière lui un torrent de gaz. Pour convertir ainsi en vitesse leur température et leur pression, les gaz prennent appui sur les parois du compartiment dont ils s'échappent et ils tendent à le repousser en sens inverse. C'est un petit peu ce qui se passe lorsque, vous rejetant en arrière d'un violent coup de talon, vous chassez vers l'avant ce qui vous sert d'appui.
Cet avion, dans son ensemble, par conséquent, je crois, répondra entièrement à ce que nous en avions voulu. Et je suis convaincu que nous aurons de bonnes dispositions. Déjà, les clientèles se manifestent très nettement. Nous avons maintenant déjà un certain nombre de clients qui ont en passé des ordres fermes. Et je suis convaincu que les choses continueront dans les temps qui vont venir. Parce que lorsqu'un avion est réussi, particulièrement bien réussi, j'ai toujours constaté, aussi bien pour mes avions que pour ceux extérieur à ma maison, mais qui ont été bien réussis également, il y a toujours une suite pour ces avions, parce que plus ils sont connus, plus ils sont en usage, plus on leur trouve d'emploi, parce que chacun aime tout de même bien avoir des avions sûrs.
Un moteur à réaction, c'est donc une machine à fabriquer des gaz chauds sous pression. Alors que le moteur classique fabrique de la puissance, les chevaux vapeurs, pour entraîner une hélice qui, à son tour, refoule vers l'arrière une veine d'air analogue au torrent de gaz dont je parlais au début. Dans le moteur à réaction, on a donc supprimé l'intermédiaire de cette espèce de ventilateur.
Sont présents tous ceux qui ont contribué à la gloire des ailes françaises. En effet, aux tribunes sont accrochés les portraits des Mermoz, Marie d'Or, Marin Lamellé, Saint-Exupéry, Hélène Boucher, Guillaumet, Pigeot, Valentin, Arnaud, Charles, de Marmier et celui qui est peut-être le plus grand de tous, Georges Guinemer.
L'objectif d'une chaîne de montage comme celle-là, c'est de réaliser l'assemblage général donc de tous ces éléments et de pouvoir tester les systèmes, les raccorder, les tester et de faire en sorte qu'au bout de quelques jours, l'avion vole.
Il faut donc aller au-delà des possibilités humaines. On vole en ce moment avec des combinaisons en TG qui maintiennent le corps du pilote dans les accélérations. Demain, puisqu'à 15 000 mètres, l'oxygène de l'air est si raréfié qu'il ne fait que 2%, il faudra voler en scaphandre complet que nous avons étudié et qui sont actuellement mises au point et qui équiperont nos prochaines unités.
Sachant que la règle, et ce qui nous permet de construire un avion en moins de temps possible, c'est que chaque partenaire réalise ses tronçons au maximum de ses possibilités. Donc réalise des systèmes, chaque système est testé individuellement, et ensuite on ne fait que tester l'ensemble. Donc notre métier ici, c'est vraiment de l'assembler, d'intégrer, de tester tout ce qui est jonction, raccordement.
Mais au-delà du scaphandre, au-delà de la combinaison en TG, il y a toujours l'homme, avec sa chair, avec son sang, avec son cerveau, et la limite de ses possibilités.
Je crois que les responsables des transports dans les grandes sociétés industrielles et chez les agriculteurs, français et étrangers, ne sont peut-être pas suffisamment informés de l'intérêt du transport aérien, du fret. Ils ont peut-être au départ, lorsqu'ils ne se sont pas complètement informés, une certaine tendance à comparer simplement entre eux les prix de transport par la voie aérienne et par une autre voie terrestre ou maritime, alors que sur bien des points, le transport aérien de fret apporte des bénéfices considérables, les emballages sont beaucoup moins onéreux, les assurances sont beaucoup moins chères, le temps d'entreposage est également limité, et au moment où l'argent coûte si cher, le fait d'avoir un turnover rapide est certainement un élément qu'il faut faire rentrer de plus en plus dans le prix de revient réel du transport aérien.
Lorsqu'un appareil sort, fait ses premiers vols, il n'est tout de même pas à même d'être utilisé aussi rapidement qu'on peut le penser. Un long délai peut s'écouler, nécessaire pour la mise au point des difficultés inhérentes à l'adaptation des moteurs et surtout des accessoires.
Et cette année, au mois de juin, nous allons faire la présentation révolutionnaire des productions françaises. Faire des présentations annuelles est trop court. La mise au point des prototypes, la définition des nouvelles techniques, la présentation des matériels est extrêmement difficile sur l'espace d'une année de 12 mois, de 52 semaines.
Je ne voudrais pas faire un affreux jeu de mots, mais ce que vous venez d'évoquer, c'est le sujet bateau. C'est un sujet que tout le monde évoque et je crois que on a tort de méconnaître les efforts qui ont été faits. Bien sûr, ce n'est pas la perfection. Bien sûr, il y a au sol toute une série de contingences que le passager admet peut-être difficilement. Mais les problèmes de sécurité d'entrée sur notre territoire, les problèmes de sécurité en vol, ne sont pas le fait du transport aérien. Nous vivons dans un monde qui est ce qu'il est. Il faut que chaque pays prenne un certain nombre de dispositions réglementaires, et ceci est vrai que l'on vole dans un charter, que l'on vole dans l'avion Concorde, que l'on s'embarque sur un bateau beaucoup plus modeste, ou que l'on prenne le train ou l'Overcraft pour aller en Angleterre.
Le voyage d'aller fut très rapide. Avec une seule escale à Port-Étienne, nous sommes arrivés à Rio après 35 heures de vol, compris l'arrêt. Tout avait très bien marché. Et les passagers sont arrivés très reposés, ils sont directement descendus à terre faire leur course et visiter la ville de Rio. Ce voyage était donc très, très réussi.
Les problèmes de Concorde sont d'un ordre très important dans le domaine du poids. Un siège doit peser de l'ordre de 8,5 kg poids impératif.
Malheureusement, l'étape suivante de Rio à Buenos Aires, au cours de laquelle nous emmenions 64 personnes à bord, a donné lieu à un incident mécanique. Cet incident, comme on le sait, se produit de temps en temps. C'est une rupture d'hélice. Cette rupture a malheureusement fait deux victimes. Mais l'avion et l'équipage se sont bien comportés puisque tout le reste des passagers a été sauvé. Et la machine elle-même a redécollé 10 jours après pour Montevideo.
Un siège peut se situer, suivant les possibilités d'une compagnie, entre 700 francs la place et 1700.
Pour des raisons de rupture de métal, vous savez, c'est encore... Le moyeu est en métal léger, le moyeu d'hélice est en métal léger, on a décidé de le refaire en acier comme on le faisait précédemment. Par conséquent, ces incidents ne se reproduiront plus avec les nouvelles hélices que nous comptons installer.